Bonjour à toutes et tous, comme vous le voyez, cet épisode est un tour du monde de l'actualité. Il s'agit donc de ces épisodes, de ces formats, au cours desquels 20 minutes pour comprendre donne la parole à l'équipe de Global Initiative, qui est ici emmenée par Grégoire Escoyer, pour vous faire un petit peu un résumé de l'actualité du mois de mars 2024. Je vais simplement ici compléter le propos de Julien Setti, qui retracera donc pour vous les enjeux de l'élection au Sénégal, pour vous indiquer que celle-ci a bien eu lieu et qu'elle a abouti sur la victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Bonne écoute.
Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au programme de l'émission, Victor parlera de l'Océanie et du partenariat Australie-ASEAN. Ensuite, Eve abordera la montée de l'autoritarisme au Kyrgyzstan. Joey ensuite parlera de la politique anti-immigration en Europe. Julien s'occupera de la tentative du report des élections présidentielles au Sénégal. Et enfin, Thaïs abordera le bilan de l'Argentine après 100 jours au pouvoir de Javier Milei. Bonjour Victor, que se passe-t-il en Océanie ?
Bien que la guerre en Ukraine continue de faire rage et qu'on assiste à un tragique regain de violence entre Israël et la Palestine, d'autres parties du monde risquent à tout moment de monopoliser l'attention internationale. Depuis quelques années, la question taïwanaise reste un sujet brûlant, dont tout le monde craint l'embrasement, sans qu'aucun expert ne puisse prédire si et quand celui-ci aura lieu. À cette situation déjà tendue s'ajoutent des tensions entre la République populaire de Chine et les Philippines, qui ne font que s'accentuer en mer de Chine méridionale. C'est dans ce contexte conflictuel pouvant mener à un embrasement régional que la Chine continue de renforcer ses intérêts stratégiques dans les pays insulaires du Pacifique, tels que les Kiribati et les îles Fidji, étendant ainsi son influence toujours un peu plus loin de ses frontières. En Océanie, cette situation commence à attiser la crainte des États-Unis et de l'Australie, qui tentent de contrer la Chine.
Quels sont les récents événements dans la région océanienne ?
Ce 18 mars 2024, le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais Winston Peters a partagé avec son homologue chinois ses craintes concernant l'accentuation des tensions en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. Les deux ministres ont également souligné que leur pays partage des intérêts communs concernant la prospérité et la sécurité de l'Indo-Pacifique. De son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a ajouté que les relations entre la Chine et la Nouvelle-Zélande continuaient de bénéficier d'un élan sain. La Chine est le partenaire économique le plus important de la Nouvelle-Zélande. Le commerce entre les deux pays s'élevait à 23,5 milliards de dollars américains entre septembre 2022 et septembre 2023. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a pendant longtemps été assez modérée, voire silencieuse sur la Chine au sein de l'alliance de partage de renseignements Five Eyes, qui regroupe les services de renseignement américains, canadiens, britanniques, australiens et néo-zélandais. Cependant, ces dernières années, la Nouvelle-Zélande s'y exprime de plus en plus sur ses craintes concernant la Chine.
Et qu'en est-il de l'Australie ?
Eh bien, c'est dans un contexte radicalement différent que le ministre chinois des Affaires étrangères poursuit son voyage ce mercredi 20 mars 2024 en Australie afin d'y rencontrer son homologue australienne, Penny Wong. En effet, le 6 mars se tenait un sommet spécial entre l'ASEAN et l'Australie pour célébrer les 50 ans de relations et dialogues entre ces dernières. Le sommet s'est déroulé à Melbourne et a duré 3 jours. Bien que les divergences subsistent entre les États membres de l'ASEAN et l'Australie, sur le projet chinois d'étendre sa présence diplomatique et militaire dans la région, les différents partis sont tout de même parvenus à une déclaration commune.
Que dit cette déclaration ?
Au sein de la déclaration de Melbourne, les États membres de l'ASEAN et l'Australie reconnaissent les avantages d'avoir la mer de Chine méridionale comme une mer de paix, de stabilité et de prospérité. En outre, ils affirment, je cite, « encourager tous les pays à éviter toute action unilatérale qui mettrait en péril la paix, la sécurité et la stabilité dans la région ». La réponse de la Chine ne s'est pas fait attendre. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la situation en mer de Chine méridionale était stable et que la Chine mettrait tout en œuvre pour régler les différends avec les pays concernés. Ces propos interviennent non seulement en réponse à la déclaration de Melbourne, mais également après un nouvel incident entre la Chine et les Philippines. En effet, la veille, les Philippines avaient convoqué le chef de mission adjoint de Pékin, basé à Manille, pour dénoncer des actes hostiles de la part de la marine chinoise à l'égard d'une mission de réapprovisionnement des troupes philippines. De son côté, le premier ministre australien, Anthony Albanese, s'est adressé à la presse pour exprimer l'inquiétude de l'Australie vis-à-vis de tout comportement dangereux et déstabilisant en mer de Chine méridionale. Le sommet a aussi permis à la ministre australienne des Affaires étrangères d'annoncer un financement de 186,7 millions de dollars américains pour les projets de l'ASEAN dans les domaines tels que la sécurité maritime. En parallèle de ces déclarations sur la sécurité dans l'Indo-Pacifique, ainsi que de la réaffirmation du partage de valeurs humanistes communes et d'une volonté d'un futur prospère et durable, la déclaration de Melbourne se positionne sur le conflit israélo-palestinien. Bien que l'Australie soit un fervent partisan d'Israël et que certains États membres de l'ASEAN sont composés d'une large population musulmane, à travers la déclaration de Melbourne, ils ont dénoncé les attaques contre les civils et les infrastructures non militaires et ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable. L'ASEAN et l'Australie semblent donc tenter de jouer un rôle accru dans la région de l'Indo-Pacifique, mais aussi à l'international. Le sommet de Melbourne leur a permis de réaffirmer leur unité face à la menace chinoise. Alors que les élections présidentielles américaines auront lieu en novembre, le spectre d'un potentiel désengagement américain commence doucement à planer sur la région. Si tel est le cas, il en va de la survie nationale que les membres de l'ASEAN prennent en main leur propre sécurité. L'Australie, jusqu'alors plutôt discrète sur la scène internationale, pourrait bien être forcée à jouer un rôle majeur dans la région.
Bonjour Eve, merci d'être présente. Tu vas nous parler de la situation au Kyrgyzstan.
Au Kyrgyzstan, depuis janvier 2024, 13 journalistes ont été arrêtés. 11 d'entre eux travaillent pour Temirov Live, un média ayant révélé des affaires de corruption touchant les élites dirigeantes kirghizes, du fils du président au chef des services secrets. Ils risquent des années de prison.
Avec ces arrestations, quel est l'objectif des autorités ?
Dans le journal Le Monde, on peut lire. Selon les observateurs, cette vague d'arrestations participe à une campagne d'intimidation dirigée contre le journaliste Bolot Temirov, créateur du média éponyme. Celui-ci est un journaliste d'investigation ayant été banni du Kyrgyzstan en septembre 2022 à cause de ses enquêtes et de ses critiques sur les dirigeants en place. Ces dernières années, ce journaliste a été battu, mis sur écoute, privé de sa citoyenneté et expulsé en Russie. Il vit aujourd'hui en Europe, mais subit toujours des pressions du gouvernement kirghize. Les autorités justifient ces arrestations avec une vidéo publiée en décembre dernier sur une chaîne appartenant à Temirov Live. Celle-ci contiendrait des appels à des troubles de masse, alors que c'est simplement Makabat Tazibek, l'épouse du journaliste, qui dénonce avec colère la corruption qui sévit dans le pays. Dans cet état d'Asie centrale, les journalistes et activistes se font de plus en plus rares, ce qui démontre le tournant autoritaire du régime. Selon Reporters sans frontières, le Kyrgyzstan a perdu 50 places en un an dans le classement mondial de la liberté de la presse. Il se retrouve donc à la 122e place sur 180 en 2023.
Comment le Kyrgyzstan est-il arrivé à cette situation ?
Depuis les années 90 et son indépendance, cet État a bénéficié de nombreux programmes mis sur pied par des ONG. Il y a aussi eu l'apparition de mouvements pacifistes sous l'initiative des États-Unis, de l'Allemagne et de la Corée du Sud. Le pays était également doté d'un certain pluralisme et d'une culture de la négociation. Malgré de nombreuses révolutions, le Kyrgyzstan était qualifié de bulle démocratique dans la région d'Asie centrale. Le Kyrgyzstan est un pays fracturé entre le nord et le sud. Les deux régions sont divisées par une chaîne de montagnes. Le nord est davantage urbanisé avec un essor chrétien et protestant, tandis que le sud est plus rural et agricole avec une application conservatrice de l'islam. En octobre 2020, les élections ont dû être annulées suite à de violentes manifestations de rue contre le pouvoir. Cela a donné lieu à la démission du président Jeenbekov et dans le chaos, Sadir Japarov a été libéré de prison et nommé président du Kyrgyzstan par intérim. En 2021, Japarov remporte les élections présidentielles avec 79% des voix. Le même jour, les électeurs se sont prononcés en faveur d'une réforme de la Constitution, accroissant les pouvoirs présidentiels et renforçant l'emprise de Japarov sur le pays. Le chef d'État en a profité pour adopter une série de lois restrictives sur la liberté de la presse, le secteur associatif et les agents étrangers. Avec ce nouvel arsenal juridique, nous pouvons faire un parallèle avec la Russie, où ce même genre de loi est utilisé contre les dissidents. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence, car selon certains observateurs, le régime de Japarov est faible et a donc besoin de la Russie pour persister. Et lorsque l'on est sous l'influence de Poutine, il est difficile de se développer sur le plan démocratique.
C'est maintenant au tour de Joey qui va nous parler de la politique anti-immigration en Europe.
Tout d'abord, aujourd'hui, le terme migrant est utilisé pour désigner l'ensemble des personnes qui quittent leur pays d'origine en quête d'une vie meilleure, y compris les demandeurs d'asile et les réfugiés. Cependant, les institutions comme le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies distinguent d'une part les demandeurs d'asile qui quittent leur pays pour être protégés de leur pays d'origine et qui par la suite obtiennent le statut de réfugié, une fois que le pays d'accueil reconnaît leurs craintes. Et d'autre part, les migrants qui viennent dans un pays non pas en raison d'une menace directe de mort, mais plutôt pour améliorer leur vie avec l'objectif de trouver un travail. On les appelle parfois les migrants économiques. En 2020, l'Union européenne a adopté le règlement fixant le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Les dépenses dans les domaines de la migration et de la gestion des frontières s'élèveront à 22,7 milliards d'euros durant cette période. En effet, la politique migratoire et de gestion des frontières a été renforcée pour financer jusqu'à 10 000 postes de garde-frontières à la disposition de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes d'ici 2027. En février 2024, l'accord conclu entre le Conseil et le Parlement sur la réforme du système d'asile et de migration de l'Union européenne en décembre 2023 a été approuvé par les pays de l'Union européenne. Cet accord consiste par exemple à revoir le filtrage des migrants en situation irrégulière, le relevé des données biométriques ou encore les procédures d'introduction des demandes. Cependant, l'Union européenne n'est pas la seule à avoir établi de nouvelles législations. Le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, mais aussi la France ont établi un renforcement considérable sur leur politique migratoire via des textes législatifs. Ce qui est commun parmi toutes ces lois, c'est la volonté d'éviter d'accueillir sur leur territoire les exilés en multipliant les contrôles aux frontières et les politiques répressives à l'encontre des migrants. Mais on retrouve également une politique d'externalisation des frontières assez marquée. Cela consiste à régler les demandes d'asile sur le territoire d'origine en échange d'argent.
Mais alors, comment expliquer ces changements politiques dans le domaine migratoire ?
On remarque que l'extrême droite gagne de plus en plus de terrain en Europe. En effet, que ça soit aux Pays-Bas, en France, au Danemark ou encore en Italie, l'extrême droite connaît un succès considérable dans les résultats électoraux. La plupart d'entre eux se basent sur la préférence nationale, la promesse d'un renouveau et surtout sur l'immigration. En effet, ils ont tendance à l'associer comme la cause de nos crises économiques et sociales, de nos doutes et de nos craintes, en allant même par établir des théories telles que le grand remplacement.
Bonjour Julien, merci d'être là. Quelle est la situation en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest ?
Le Sénégal fait désormais face à une relative accalmie après plusieurs semaines de tensions sociopolitiques. Ces tensions ont résulté de la décision, le 3 février dernier, du président sortant Macky Sall de reporter les élections présidentielles, initialement prévues le 25 février, en décembre 2024. Il justifiait ce report par les tensions politiques liées à l'invalidation de la candidature de plusieurs opposants. Cette décision a été considérée par une grande partie de la population, dont l'ex-première ministre Aminata Touré, comme une atteinte aux droits constitutionnels du peuple sénégalais. D'autant plus que l'aval du Parlement s'est fait à la suite du renvoi manu militari des députés de l'opposition de l'Assemblée nationale au moment du vote. De plus, dès le lendemain, la police a violemment réprimé les partisans et sympathisants de l'opposition descendus dans les rues pour manifester contre la décision du président de la République. Cette situation a renforcé les critiques sur l'état de la démocratie en Afrique subsaharienne, de façon générale, et au Sénégal en particulier.
Quand auront lieu les élections présidentielles ?
Après plusieurs jours d'échauffourée dans le pays, le Conseil constitutionnel a décidé d'invalider la décision prise par le président de la République et l'a incité à fixer une nouvelle date avant la fin de son mandat prévue pour le 2 avril prochain. C'est donc cette date du 2 avril que proposera dans un premier temps Macky Sall, avant qu'elle soit rejetée par le Conseil constitutionnel sous la pression de l'opposition et de la société civile. Finalement, la présidence fixera en accord avec le Conseil constitutionnel la date des élections présidentielles au 24 mars 2024.
Qui sont les principaux candidats ?
Il importe de rappeler que le président sortant a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections. Il devient ainsi le premier président de l'histoire du pays à ne pas être candidat à sa propre succession. Ils seront donc au nombre de 19 à concourir pour exercer la plus haute fonction de l'État sénégalais. A cet effet, les principaux candidats sont Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle et ancien Premier ministre de Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye, candidat du PASTEF qui remplacera Ousmane Sonko, principal opposant politique du président Sall, qui avait été emprisonné puis amnistié le 15 mars dernier. Sont également en lice l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall et Idrissa Seck, qui avait terminé deuxième au présidentiel de 2019.
Dans le même temps, le Niger a rompu sa coopération militaire avec les États-Unis. Peux-tu nous en dire plus ?
Le samedi 16 mars dernier, le porte-parole de la junte nigérienne, le colonel Amadou Abdraman, a annoncé dans un communiqué la décision des autorités nigériennes de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire du Niger. Cette décision intervient après un refus du chef de la junte de s'entretenir avec une délégation américaine composée de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines Molly Fee, la secrétaire d'État adjointe à la défense Céleste Wallander, ainsi que du chef du commandement de l'Africom, Michael Langley. Selon le porte-parole du gouvernement nigérien, l'arrivée de la délégation n'a pas respecté les usages diplomatiques et a été doublée d'une attitude condescendante, assortie de menaces de représailles de la part de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines.
Pourquoi la junte ferme-t-elle les portes aux États-Unis ?
La décision intervient après que les États-Unis aient qualifié la situation de coup d'État en septembre 2023, un qualificatif qui n'avait été employé par la superpuissance dans les premiers mois ayant suivi le putsch. En effet, selon l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act des USA, le qualificatif de coup d'État induit la suspension de l'aide américaine aux pays concernés. En ce sens, les USA ont donc suspendu 500 millions de dollars d'aide au Niger depuis environ 6 mois.
Bonjour Thaïs, quelle est la situation en Argentine ?
3 mois après son arrivée au pouvoir, le président argentin, Javier Milei, gouverne à coups de réformes ultralibérales avec pour objectif principal la diminution de l'inflation du pays. Se définissant lui-même comme un libéral libertarien ou encore un anarcho-capitaliste, cet économiste de formation a pour projet de transformer le pays en substituant le marché à l'État afin de s'insérer dans un modèle de globalisation basé sur le libre-échange.
Comment se traduit concrètement cette politique d'austérité ?
Le président s'est employé à remanier les fondements de l'État argentin dès son investiture, notamment à travers une série de mesures particulièrement impopulaires, telles que la libéralisation des prix, la dévaluation de plus de 50% de la monnaie locale, le peso, la suppression de 50 000 emplois publics, la suppression des aides à l'énergie et au transport, ainsi que l'annulation de la loi sur l'encadrement des loyers. Dans cette nouvelle Argentine, il n'y a pas de place pour un État régulateur et omniprésent. Javier Milei a notamment déclaré lors d'une interview « Si cela ne tenait qu'à moi, je privatiserais tout ».
La classe politique argentine est-elle en accord avec les différentes mesures ultralibérales du président ?
La vaste réforme du nouveau président, incarnée par ce qu'il a nommé le décret de nécessité et d'urgence, a récemment été rejetée par les sénateurs argentins. Ce décret, qui vise à modifier ou supprimer plus de 300 normes existantes, est déjà partiellement en vigueur, mais ne fait donc pas l'unanimité auprès de la classe politique. En tant que troisième force politique du pays, le parti de Javier Milei, La Liberté Avance, ne peut se passer de négociations avec les autres partis. Pourtant, le président ne s'est pas privé d'attaquer les députés, s'étant prononcé en défaveur de ces mesures. Il les a notamment traités de niara et de corrompus, avant de faire un geste d'ouverture envers les gouverneurs de province, les dirigeants de partis et ex-présidents, en les invitant à signer un nouveau contrat social. Ce contrat se base sur les principes d'équilibre budgétaire non négociable, de propriété privée inviolable et de dépenses publiques réduites. Le projet de méga-décret continuera sa route vers la Chambre des députés. Le rejet des sénateurs ne représente donc qu'un revers temporaire pour Javier Milei.
Concernant les réformes actuellement en vigueur dans le pays, comment impacte-t-elle la population ?
Depuis la mise en place de la politique d'austérité, les Argentins ont perdu pas moins de 20% de leur pouvoir d'achat. La consommation a donc considérablement baissé et l'indice de pauvreté, qui était de 40% l'an dernier, a été largement dépassé. Les difficultés sont telles que le gouvernement autorise les habitants qui peinent à payer leur loyer à le faire en litres de lait ou en kilos de viande. Un retour à un système féodal pour les opposants du président. Javier Milei garde cependant le soutien de 45% de la population et fait appel à la patience de ses concitoyens. Avec un taux d'inflation redescendu à 13%, le président se sent proche du but. On observe donc une société argentine coupée en deux entre ceux qui gardent espoir dans le discours anti-système de Milei et ceux qui regrettent le temps de l'état bureaucratique du bien-être péroniste.
Et les Argentins dans tout ça ? On comprend que le pays est divisé, mais comment se traduit l'opposition ?
Un mois et demi après son arrivée au pouvoir, Javier Milei devait déjà faire face à une grève générale. Les manifestations continuent de rassembler des milliers de personnes dans la rue afin de dénoncer les décrets et projets de loi du président. le lundi 18 mars, date marquant les 100 jours au pouvoir du président, on a pu observer de nombreux accrochages entre la police et les manifestants venus dénoncer l'urgence alimentaire dans laquelle se trouvent plongés les Argentins. Cette journée d'action a pris place dans l'ensemble du pays et avait pour mot d'ordre « la limite, c'est la faim ». En plus de la hausse vertigineuse des prix, le président a supprimé les aides aux banques alimentaires. Conjugué à la misère grandissante dans le pays, de nombreux Argentins ne parviennent plus à se nourrir convenablement.
Comment le gouvernement réagit-il face à ces manifestations ?
Javier Milei a décidé d'adopter une approche répressive, notamment envers les syndicats qui ont une grande capacité de mobilisation en Argentine. Le gouvernement souhaite également étouffer la contestation en criminalisant le blocage des rues. Le bras de fer avec les syndicats argentins ne semble pas près de s'apaiser et les observateurs craignent donc que les tensions sociales, politiques, économiques et géopolitiques perdurent dans les mois à venir.
Enfin, quels sont les derniers éléments qui secouent l'actualité politique en Argentine ?
Le 1er mars, Javier Milei annonçait dans son discours d'ouverture des séances parlementaires la fermeture de TELAM. Il accuse entre autres l'agence de presse publique argentine de faire de la propagande kirchneriste, en référence au mouvement politique de l'ex-présidente de centre-gauche, Cristina Fernández de Kirchner, grande adversaire politique de l'actuel président. Cette fermeture suit une annonce du gouvernement datant de février qui visait à annoncer son intention de modifier la structure organique et fonctionnelle de l'ensemble des médias publics. TELAM, c'est plus de 700 employés et près de 500 dépêches d'actualité nationale diffusées par jour. Ce n'est pas la première fois que des présidents tentent de fermer l'agence, mais les employés dénoncent ici ce qu'ils estiment comme étant une des pires atteintes contre la liberté d'expression de ces 40 dernières années de démocratie.
Merci à nos différents intervenants pour leur participation à ce tour du monde. Merci à la chaîne 20 minutes pour comprendre et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Global Initiative sur Instagram, Facebook. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau tour du monde sur la chaîne 20 minutes pour comprendre. Thank you.